Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio IMO pour ce nouveau numéro du MAG de l'IMO. Au programme, vous le savez, comme tous les vendredis, de l'actu, des infos, des découvertes. Nous allons parcourir pendant cette première heure des sujets passionnants qui vous intéressent si vous êtes professionnel de l'immobilier, futurs acquéreurs, propriétaires. Pour présenter ce numéro, je suis en compagnie de Fabienne Lissac. Bonjour Fabienne.
Bonjour Fabrice, comment ça va cette semaine? Ça s'est bien passé?
Ça s'est très bien passé. Une nouvelle semaine extrêmement chargée dans le petit monde de Radio Immo et de l'immobilier en particulier, puisque nous avons vu pas mal de salons.
Congrès FNAIM, beaucoup de monde, tous les professionnels sont venus vous voir en fait.
Eh oui, on vient, ils passent tous par ce micro. Voilà, bienvenue à tous, donc vendredi 3 décembre, bon réveil si vous êtes en train de vous réveiller. Temps frais ce matin, 2 petits degrés, Fabienne, pas évident de
tu
sortir de la couette.
Je pour me réchauffer, non, je sais pas si j'ai le droit.
Si, bien sûr, venez ici. Alors on accueille en deuxième heure, Fabienne, on va accueillir un invité exceptionnel comme d'habitude. Qui reçoit-on?
Samuel Co, directeur général de XP France, des LED, un acronyme, mais une société qui s'est déjà fait un nom.
Exactement, on verra avec Samuel Co donc les détails des ressorts de ce modèle disruptif qui jette un pavé dans la mare, un nouveau dans le monde de l'immobilier. Et puis juste avant, comme chaque vendredi, on accueillera une nouvelle start-up grâce à Jean-Michel Royot. Voilà pour le sommaire, le Mac de l'Immo, c'est parti.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Selon la dernière enquête de PAP.fr, un tiers des propriétaires ignorent encore les nouvelles dispositions de la loi climat et résilience. Or, celle-ci pourrait bien bouleverser le marché locatif d'ici à 2028. C'est une chronique de Fabrice Coustet.
Si vous êtes propriétaire bailleur, attention, vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais la loi climat et résilience change radicalement la donne. À partir de 2025, si votre logement loué est classé F ou G, il pourrait, sans action corrective de votre part, tout simplement ne plus pouvoir être loué. Or, selon la dernière enquête de PAP.fr, c'est une disposition qu'un tiers des propriétaires ignore encore. Un résultat alarmant qui témoigne d'une méconnaissance des dispositions et du calendrier des réformes à venir. On l'aura compris, avec la loi climat, on passe du laisser-faire énergétique à la lutte résolue contre les passoires thermiques. Aujourd'hui, pour être mis en location à usage de résidence principale du locataire, un logement, vide ou meublé, doit être décent. Or, jusqu'à la fin 2021, la performance énergétique n'était pas un critère de décence. Cela explique que des passoires thermiques puissent encore être mises en location. En revanche, la première loi climat votée en 2019 et son décret d'application de début 2021 fixent une première échéance au 1er janvier 2023, date à laquelle devraient être interdits à la location les logements dont la consommation excède 450 kWh par mètre carré et par an, soit l'essentiel de la classe énergie G. La loi climat de 2021 n'ayant pas abrogé cette disposition, elle reste à ce jour en vigueur. Et à compter de 2025, un niveau de performance énergétique minimal deviendra un critère de décence, donc un impératif pour qu'un logement soit valablement loué, vide ou meublé, à usage de résidence principale du locataire. Et ce niveau de performance minimal sera progressivement rehaussé, ainsi le niveau de performance d'un logement décent sera compris. À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F, à cette date, les logements classés G, environ 600 000 logements, ne pourront donc plus être mis en location. À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E, à cette date, les logements classés F, soit environ 1 200 000 logements, ne pourront donc plus être mis en location, en plus de ceux classés G, déjà interdits. Et à compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D, à cette date, les logements classés E, soit 2 600 000 logements, ne pourront plus être mis en location, en plus de ceux classés F et G, déjà interdits. Selon la dernière enquête menée par le site PAP, 40% des propriétaires ignorent ces dispositions, ce qui pourrait bien bouleverser le marché locatif.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Selon la dernière enquête réalisée par Se Loger, l'Île-de-France fait incontestablement l'objet, sinon d'un désamour, à tout le moins d'une perte d'attractivité de la part de ses habitants. Alors, ce grand exode urbain, est-ce un mythe ou une réalité? Des éléments de réponse avec vous, Fabrice Coustet.
À l'heure où l'émergence d'un nouveau variant risque de restreindre à nouveau nos libertés de circuler, de consommer et de travailler au bureau, beaucoup de Franciliens pourraient tourner le dos à la région capitale et s'expatrier en province. Ce grand exode urbain, est-ce un mythe ou une réalité? Si l'intention ne vaut pas action, de toute évidence, elle la précède. Selon la dernière enquête réalisée par Se Loger, l'Île-de-France fait incontestablement l'objet, sinon d'un désamour, à tout le moins d'une perte d'attractivité de la part de ses habitants. En février 2020, 86% des Franciliens porteurs d'un projet d'achat immobilier envisageaient de rester en Île-de-France. Ils ne sont plus que 82% en mai 2020 et ce chiffre baisse encore à 77% en mai 2021. S'il semble exagéré de parler d'un exode urbain massif des Franciliens, ceux-ci sont définitivement moins nombreux qu'avant à orienter leur recherche immobilière dans leur région. Preuve en est, là où toutes les régions enregistrent une hausse des volumes de recherche immobilière en provenance d'Île-de-France, cette dernière subit un recul des recherches effectuées par les Franciliens eux-mêmes. Les Franciliens sont également 27%, contre 19% des provinciaux, à chercher à acheter un logement dans des villes dont la population varie entre 20 000 et 80 000 personnes, à l'instar de villes telles qu'Évreux, Bourges ou encore Angoulême. Mais attention, ce ne sont pas nécessairement les régions qui concentrent le plus de recherches, exemple la Corse ou la Bretagne, qui comptabilisent le plus de demandes de mise en relation et donc à terme de transactions. Ce ne sont que des intentions d'achat qui ne se solderont pas nécessairement in fine par des achats véritables. Néanmoins, on peut affirmer qu'il y a incontestablement un avant et un après confinement. Il est exact de dire que les restrictions sanitaires et la montée du télétravail ont poussé de nombreux citadins à matérialiser leurs projets d'espace, d'extérieur et de verdure, mais on est encore loin d'un réel exode urbain où l'on verrait les campagnes accueillir des nuées de néo-urbains. En revanche, il est clair que les villes moyennes ont incontestablement tiré leur épingle du jeu et continuent à faire rêver les Franciliens.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Radio Immo était partenaire, bien évidemment, du congrès de la FNAIM qui s'est tenu sur un modèle hybride, hein, 2 jours en présentiel au Carrousel
Très
du Louvre.
Très bien organisé.
Et 1 journée en digital. Et bien sûr, Jean-Marc Torollion, le président de la Fédération, a rassemblé l'ensemble des professionnels de l'immobilier. On l'a entendu à notre micro. L'idée, c'est que le secteur soit entendu à l'aube de l'élection présidentielle. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup du logement, pour l'instant, les candidats en lice. Hein. Alors, il fait le point, Jean-Marc Torollion, sur le record atteint par la profession et les tendances majeures du secteur. On l'écoute tout de suite.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Immo. Nos équipes couvrent aujourd'hui et demain le congrès des adhérents de la FNAIM, le salon des professionnels de l'immobilier en direct du Carrousel du Louvre. Et nous allons justement lancer cet événement exceptionnel avec Jean-Marc Torollion. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Vous êtes président de la FNAIM. Merci de débuter cette première matinée avec nous. Alors j'imagine que cette édition, cette année, a une saveur particulière après les 2 années difficiles que nous avons vécues.
Elle a une saveur particulière parce que souvenons-nous bien qu'à la même époque qu'il y a un an, nous étions contraints d'avoir un congrès exclusivement digital, ce qui était une formule inédite pour nous et même si elle avait rencontré un certain succès, forcément frustrante. Et donc cette frustration, eh bien, on la met de côté et on a le plaisir de se retrouver physiquement avec malgré tout tous les enjeux sanitaires et la prudence que nous devons avoir. Et la fréquentation s'annonce bonne, 2000 personnes.
C'est pas
au moins
mal. Hein.
Donc voilà, ça s'annonce déjà comme une belle édition.
Alors, quel impact aura finalement la crise sanitaire sur le marché immobilier? Est-ce que vous avez l'impression que, le milieu a été plutôt résilient?
Alors, ce qui a été résilient, d'abord, c'est la volonté des Français de changer d'air, d'avoir des vrais projets pour leur habitation principale, et donc une activité record, même si on est sur un petit ralentissement qui laisse présager un atterrissage un petit peu en dessous d'1 100 000 transactions, c'est un record absolu. Ensuite, un marché de la location qui a bien fonctionné, un marché du syndic, parce que pensons bien au syndic, qui a dû résorber tout le le retard et toutes les difficultés liées à la période de confinement et on a fait face. Et puis une fédération qui se porte bien, un millier de nouveaux adhérents cette année, c'est pas rien. Donc globalement positif à la fois pour notre syndicat, positif pour nos adhérents et positif pour la valeur immobilière.
Très bien. Alors quelles sont les grandes thématiques que les professionnels vont aborder durant ce congrès ? J'imagine qu'il y a des sujets exceptionnels cette année.
Bah, nous sommes à un moment finalement assez intéressant puisque la campagne présidentielle de la France est en route. Oui. Et nous allons accueillir tout le spectre politique finalement, puisqu'on va partir, naturellement Emmanuel Wargon dans quelques heures va introduire ce congrès et elle répondra à mon discours, mais nous aurons demain le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, nous aurons la représentation de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, nous aurons Arnaud Montebourg et Marine Le Pen. Donc on a le spectre j'ai oublié personne dans le spectre, c'est la
vous
première
vous ne vexerez
fois.
Personne Jean-Marc.
C'est la première fois qu'on a tout ce spectre là. Derrière on a des think tanks innovants, Terra Nova, Génération Libre avec l'Institut Louis Harris pour décrypter les propositions qui seront faites, et puis une table ronde économique de haut niveau parce qu'on a Dominique Seux et puis Thomas Porcher, un keynésien et un libéral là aussi. Ouais. Est-ce qu'on a une bulle de l'immobilier ou pas, quel décryptage pouvons-nous avoir de la situation économique, et la ville de demain avec de Chalandard, le patron de Saint-Gobain. Nous aurons la présidente des architectes, nous aurons l'OCDE qui sera avec une de ses représentantes et le directeur général de Next City. Et on aura quand même un petit moment aussi incentive parce que Louis Burton qui a fait troisième au Vendée Globe sera des nôtres tout à l'heure aussi.
Ça c'est formidable.
Et ça c'est aussi le moment où on se dit regardons aussi la capacité qu'on peut avoir à être dans l'inconnu, un compétiteur et à avoir à s'adapter en permanence. Je crois que ça nous parle aussi.
Alors le congrès de cette année est éco-engagé. Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ?
Ben, on a un cahier des charges pour faire en sorte que notre impact carbone soit le plus bas possible, et en réalité nous allons être contrôlés sur le respect de ce cahier des charges qui comprend 120 points, mais on en a un certain nombre à respecter et on verra si on obtient ce label. Voilà, c'est un engagement que nous prenons, mais que vous prenez tous, hein.
Bien sûr.
Ne serait-ce que par exemple pour que les stands soient recyclables, quelques éléments comme ça.
Donc être montreur d'exemple, hein,
être
surtout,
montreur d'exemple. Et c'est aussi la dimension RSE de ce congrès pour nous, parce qu'on s'engage dans la rénovation énergétique, même si on est critique sur un certain nombre d'aspects opérationnels, mais sur la philosophie globale, on est moteur.
Très bien. Pour finir, qu'est-ce que vous attendez de ces deux jours, Jean-Marc Torlion ?
J'attends de ces deux jours que le logement ancien, privé, c'est-à-dire pas le logement social, pas le neuf, mais celui qui concerne 83% des Français, soit au cœur des préoccupations politiques de nos gouvernants ou de nos futurs gouvernants. Et là, on aura gagné.
Très bien. On vous souhaite un très bon congrès, Jean-Marc Torlion.
Merci
beaucoup.
Je vous souhaite un très bon congrès.
Merci,
à
président
bientôt.
De la FNAIM. Merci beaucoup.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Au 1er janvier 2022, il y a des changements. Les choses vont s'accélérer en ce qui concerne la rénovation. Le gouvernement et l'Agence nationale de l'habitat, ANAH, ANA, vont déployer France Rénov, le service public de la rénovation de l'habitat. Vous êtes peut-être concerné. Explication sur les enjeux financiers et écologiques de la rénovation énergétique avec vous, Fabrice.
La rénovation énergétique est plus que jamais un enjeu majeur. Au 1er janvier 2022, les choses vont s'accélérer car le gouvernement et l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, vont déployer France Rénov, le service public de la rénovation de l'habitat. Son objectif est clair, accompagner un maximum de Français dans leur rénovation énergétique. En plus d'une plateforme web, 450 guichets seront implantés sur l'ensemble du territoire. Si initier des travaux de rénovation énergique est souvent vu par les Français comme une dépense, il s'agit plutôt d'un investissement avec une véritable économie à la clé. À l'heure où l'on observe une flambée des coûts de l'énergie, les ménages français sont en quête de logements moins énergivores. Or, selon Enedis, seules 110 000 maisons françaises sont raccordées au solaire sur près de 10 millions. C'est quand même une progression comparée aux seules 3 000 maisons équipées de panneaux solaires en 2015. D'ailleurs, la France est au pied du podium à la 4e place derrière ses voisins allemands, italiens et anglais en ce qui concerne l'équipement en panneaux photovoltaïques. Côté travaux, l'isolation reste la première des mesures à prendre. En effet, 35% des fuites de chaleur se font par les combles. Ensuite, chaudières au fioul et au gaz sont à bannir au profit de la fameuse pompe à chaleur. Celle-ci fonctionne à 75% avec de l'air et à 25% avec de l'électricité. Elle peut même être alimentée grâce à des panneaux solaires sur le toit. Enfin, d'autres installations comme un chauffe-eau thermodynamique, une VMC double flux, des fenêtres à double ou triple vitrage ou encore des panneaux photovoltaïques permettent de réaliser des économies d'énergie substantielles. Et en combinant les différents dispositifs, la rénovation énergétique permet ainsi de réduire ses factures d'électricité jusqu'à moins 80%. Bonne nouvelle, l'État donne un coup de pouce financier pour inciter les ménages à se lancer dans des travaux de rénovation énergétique avec des primes et des aides spéciales. La plus connue d'entre elles reste MaPrimeRénov' qui s'adresse à tous les propriétaires français qui entreprennent des travaux de rénovation énergétique. Quant aux ménages les plus précaires, ils peuvent bénéficier du certificat d'économie d'énergie CE et du chèque énergie. Il est en effet grand temps de bannir les passoires énergétiques. Selon le ministère de la Transition écologique, le bâtiment représente toujours 27% des émissions de CO2 et 45% de la consommation d'énergie en France.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Fabienne, vous avez arpenté tout au long de ce début de semaine les allées du Carrousel du Louvre, où se tenait le congrès de la FNAIM, et vous avez animé une conférence sur l'interdiction de location des logements énergivores. C'est tout la loi climat et résilience, ça change la donne. Alors, quels enjeux, quelles solutions? Autour de vous, on retrouve Catherine Albanesi, la responsable d'agence Agence Mico, Thierry Marchand, le président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNAIM, et Michael Raymond, administrateur et président de la Commission fédérale administration de biens FNAIM du Grand Paris. Ça faisait une belle table ronde. On écoute ça, un résumé tout de suite.
J'ai la chance d'accueillir Catherine Albanesi, fois administratrice fédérale, gestionnaire de biens. Catherine Albanesi, bonjour.
Bonjour.
Par les femmes. Également Thierry Marchand, est président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers, la FNAIM. Thierry Marchand, bonjour. Merci bonjour. D'être notre invité. Et puis, Michael Raymond, administrateur, président de la Commission fédérale administration de biens à la FNAIM du Grand Paris. Michael Raymond, merci d'être avec nous. Alors, on ne va pas refaire toute la table ronde, mais ce sujet de la loi climat et résilience, qu'est-ce qu'elle suscite comme question, comme interrogation? Alors, se rendre les bâtiments moins énergivores, finalement tout le monde est d'accord, rassurez-moi, sur le constat on est d'accord. Maintenant, quels moyens? Est-ce que vous pouvez planter un peu le décor? Ça représente quel volume de biens quand il s'agit de les rénover et de les mettre aux normes? Est-ce qu'il y en a un qui veut démarrer?
Oui, je vais démarrer. Donc aujourd'hui, 18% des logements sont classés F et G. C'est 18% à rénover assez urgemment, puisque dans la loi climat et résilience est intervenu un critère d'indécence. Lorsque ces logements seront classés F et G, ils seront indécents, donc très difficilement louables. Donc il va falloir effectuer des grands travaux sur ces biens.
Si je peux me permettre de compléter...
Vous êtes là pour ça.
Ouais. On en parlait tout à l'heure, avec une grosse disparité en réalité entre les zones géographiques et le type d'habitat, parce qu'entre l'habitat du sud, individuel, du collectif, du nord, et notamment en région parisienne où moi je suis installé, les statistiques sont un peu moins optimistes, on va dire, avec des statistiques qui peuvent être de l'ordre de 20% de G, 15% de F, enfin, et donc un volume de logements, notamment en région parisienne, à rénover considérable.
J'ai vu beaucoup de gens, et vous allez pouvoir rebondir, Catherine Albanesi, à cette table ronde, ils sont venus vous voir. C'est quoi la réaction? Les gens sont intéressés ou c'est une urgence maintenant?
Alors, les gens sont intéressés parce que nous, en notre qualité d'intermédiaire, en fait, on a un rôle important à jouer pour nos clients qu'ils soient bailleurs ou pour nos clients qu'ils soient locataires. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est d'actualité, un sujet qui va impacter les relations entre les propriétaires et les locataires, et un sujet qui va impacter considérablement les finances des propriétaires concernés, et c'est là où notre rôle va intervenir.
On s'est rendu compte en tant que diagnostiqueur immobilier que depuis le début de l'année finalement, on a de plus en plus de questions sur la performance énergétique de l'acquéreur, du locataire, surtout du bailleur. Nous avons énormément de questions et ça s'est devenu crescendo avec le nouveau DPE. On a encore plus de questions et d'inquiétudes dans le résultat. Aujourd'hui, on attend le résultat du DPE, ce qu'avant, précédemment, le DPE est un diagnostic relativement simple et on ne faisait pas attention. Aujourd'hui, on a vraiment pris conscience de cette donnée. Donc je pense que les professionnels de l'immobilier sont maintenant aussi très, très inquiets ou très surpris de des classifications des logements et donc ont besoin de renseigner leurs clients.
C'est ce que j'allais dire. Pour vous, c'était vraiment la consécration. Avant, je ne faisais pas très attention à l'étiquette. Et maintenant, le diagnostic, tout le monde s'est rendu compte de sa valeur. C'est crucial.
Oui, c'est totalement devenu crucial dans l'esprit aujourd'hui de l'acquisition de son bien et de la valeur foncière de son bien.
Alors, vous êtes applaudi avant d'avoir parlé. Mickaël Raymond, bravo. Je plaisante. On pourrait se dire, bon, j'ai compris l'objectif, c'est simple, c'est pour la bonne cause. Mais est-ce que les solutions sont là? Est-ce que les outils sont là? C'est bien beau de lancer des objectifs. Hein, c'est pas la première fois que le gouvernement lance la donne sur une belle intention. Mais la pratique, la réalisation, c'est à vous, acteurs de l'immobilier, de le faire. Comment ça se passe?
La réalisation, elle va être très compliquée parce que le DPE, effectivement, n'est que le point de départ d'un processus. En réalité, c'est la sonnette d'alarme qui permet de dire attention, il y a un problème de performance énergétique. Mais derrière, ça déclenche tout un processus qui va impliquer un audit énergétique, un diagnostic technique global de l'immeuble, un plan pluriannuel de travaux en copropriété, avec derrière des vrais problèmes de financement notamment. Parce que les montants sont considérables. Dans un immeuble, si la solution à la passoire énergétique, c'est de refaire l'isolation de la toiture, le ravalement des murs extérieurs et changer la chaudière à gaz au sous-sol, on parle en centaines de milliers d'euros. Et donc pour les copropriétés dont les finances sont parfois un peu difficiles, il va y avoir des vraies questions de financement. Et il y a quelques aides, mais est-ce qu'elles vont être là?
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
On a beaucoup parlé de Notre-Dame, mais le diocèse de Paris s'occupe et gère beaucoup d'autres sites. Le diocèse de Paris posséderait indirectement de nombreux biens immobiliers pour une estimation de 700 millions d'euros. Des détails sur ce gigantesque empire immobilier du diocèse de Paris avec Vincent Favéro.
Le diocèse de Paris possède un empire immobilier qui ferait rêver n'importe quelle entreprise du CAC 40. Cette institution, la plus importante en France, gère 116 paroisses et 1296 prêtres dans toute l'Île-de-France. À sa tête, Monseigneur Aupetit vient de présenter sa démission au pape François pour des raisons qui seraient liées à une liaison entretenue en 2012 avec une femme et à sa gestion de l'archevêché. Autre affaire révélée par nos confrères de France Inter, l'important patrimoine immobilier que posséderait le diocèse. Près d'une centaine d'immeubles pour un total des biens immobiliers estimés à 700 millions d'euros. Pour arriver à cette somme, on notera la présence de plusieurs biens représentant des caractéristiques de l'immobilier de luxe, comme le 28 avenue Georges V à Paris qui abrite un centre de congrès mais aussi un atelier chrétien dans un immeuble estimé à 142 millions d'euros. Autre bien, le 8 rue de la Ville-l'Évêque dans le 8e arrondissement, aussi à Paris, un ancien presbytère de 6800 mètres carrés qui abrite aujourd'hui le siège social du groupe Free. Estimation entre 137 et 156 millions d'euros. Enfin, l'hôtel particulier de la rue Barbet de Jouy, légué en son temps au diocèse par une riche paroissienne, n'est autre que la résidence officielle de l'archevêque de Paris. On y trouverait des bureaux, des salles de réunion, mais aussi un appartement et même une chapelle privée pour un total du bien de plus de 50 millions d'euros. Si ces monuments sont aujourd'hui mis en avant, c'est parce que l'église peine à trouver de l'argent. Et si l'on pense qu'elle possède une mine d'or, il ne faut pas se tromper. Comme l'impose la loi, les cultes ne peuvent être propriétaires immobiliers. Tous ces immeubles sont donc la propriété de nombreuses SCI ouvertes avec les années. Un système de contournement légal de la loi, rappelle la radio publique, qui pourrait cependant être reproché au diocèse de Paris. L'église étant aussi dans son ensemble dans une mauvaise passe avec les nombreux scandales d'agressions sexuelles ou de viols connus depuis quelques années. Beaucoup regardent donc ce patrimoine immobilier indirect avec beaucoup d'intérêt. Et voilà une façon de pouvoir peut-être indemniser, à défaut de réparer bien sûr, les nombreuses exactions de l'église.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion System, promis et bien ici. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Enemy.
Your words up on the wall as you're praying for my phone, and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in a mind. Tell you you're the greatest, but once you turn, they hate us. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy.
Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell him I still away go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had a thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it up, I don't panic. Batter, batter up, who the baddest? It don't matter, cause we is your th-
my enemy.
Et on vient d'écouter Enemy d'Imagine Dragons sur Radio Imo.
Le Mac de l'Imo continue en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
La sixième édition du baromètre annuel de la satisfaction client réalisé par l'IFOP pour Opinion System a été publié dans l'immobilier et ce sont trois acteurs qui en ont débattu à ce congrès FNAIM, à savoir Samantha Dominguez d'Opinion System, Gilles Parent, Julien Savelli, également Eric Alouche d'ERA était de la partie. Je vous propose d'écouter un extrait de cet échange.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. On est toujours ici en direct au salon FNAIM qui fait suite au congrès avec une assemblée générale qui s'est fort bien passée d'ailleurs, qui a eu lieu je crois dimanche avec l'ensemble des adhérents de la FNAIM. On est ravis d'être avec vous. On va parler d'un sujet hyper important, c'est la table ronde d'Opinion System où on va dévoiler, comme c'est l'usage chaque année, le sondage IFOP pour en parler des professionnels de l'immobilier, pour avoir justement cette perception qu'ont les Français des agents immobiliers sur un échantillon d'un peu plus de 1000 personnes qui a été diligenté par l'IFOP. Samantha Dominguez, directrice générale adjointe d'Opinion System, est avec nous.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Samantha?
Ça va très bien.
Bah, je suis ravi. Parlez un tout petit peu plus fort pour qu'on puisse bien vous entendre avec le fond, c'est pas évident. Merci d'être avec nous. Gilles Parent, full power.
Bonjour Sylvain, tout va bien. Full power, zéro stress, high energy, pas de soucis.
Voilà, ce que j'adore chez vous, mon cher Gilles, c'est l'énergie incroyable.
Il y en a besoin.
On se demande si la nuit, il se branche pas sur le secteur pour se recharger.
Tout va bien.
Merci d'être avec nous. Julien Savelli, le président délégué de la FNAIM, qui est avec nous.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Très très bien.
Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Et bien sûr, l'incontournable directeur exécutif d'ERA France, Eric Alouche.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Super, ben, ça va super. On est bien, tout était très intéressant. On est dans un schéma immobilier, un contexte qui est formidable. Donc tout va très bien.
Alors, on est ensemble une bonne douzaine de minutes, juste pour dévoiler les résultats qui sont publiés chaque année avec un institut de sondage et Opinion System sur finalement ce qui apparaît comme étant un peu la dent creuse du marché. Quelle est la perception qu'ont les Français des agents immobiliers? Alors, c'est très intéressant puisque Opinion System, depuis plusieurs années, mesure l'état du moral des Français à travers la perception des agents immobiliers. Et donc, ça nous permet aussi, en même temps, Samantha, de développer un outil qui permet de mesurer la progression aussi dans l'esprit du public. Parce que c'est pas le tout de savoir quelle est la perception de l'agent immobilier qu'ont les Français. On sait qu'à une époque, elle était franchement pas très bonne. Je ne dis pas qu'elle s'est considérablement améliorée, hein, je précise. Mais simplement, on voit bien que les générations qui arrivent concourent à l'amélioration de la perception des agents immobiliers. Je crois que c'est les éléments qui transparaissent dans le sondage. Samantha, quelques chiffres.
Alors, c'est déjà la genèse de cette enquête IFOP. Donc, c'est le sixième baromètre. On a commencé en 2016.
Oui. Vous pourriez parler un tout petit peu plus fort.
Je parle un petit peu plus fort, excusez-moi. Donc, c'est la sixième édition du baromètre de l'IFOP. Voilà. Et donc, ce qui transpire cette année, on a un taux de satisfaction général de 7,3 sur 10, quand en 2016, on était à 6,7. Donc, il y a quand même une belle progression depuis 6 ans. Et finalement, ce baromètre, on l'a monté justement, comme tu disais, pour jauger un petit peu l'image de la profession immobilière, quand on a tendance à penser que c'est catastrophique. Donc, ça remet un petit peu de morale aux troupes. Par contre, on a stagné. Alors, il n'y a pas eu de croissance, pas de chute cette année au niveau de la satisfaction générale. L'année dernière, en 2020, il y avait toujours 7,3 de satisfaction et cette année, toujours 7,3. Alors, moi, ce que j'en ressors après, vous m'en direz aussi voilà, des nouvelles et ce que vous en pensez, mais par rapport à cette situation post-Covid, on peut aussi se dire qu'on a été combatif, du moins la profession l'a été. Elle a été réactive avec la digitalisation, la numérisation des outils, etc. etc. En tout cas, on n'a pas eu de chute. Il y a eu aussi un critère qui, je pense, va faire un petit peu débat. C'est le critère numéro 5, la qualité de service par rapport aux honoraires, qui a gagné finalement 0,2 points. Donc, c'est un petit peu le critère anxiogène des agents. Et voilà, aujourd'hui, on est en croissance sur ce critère-là.
Un commentaire, on voit bien que l'association honoraire-service commence à monter dans l'opinion, ce qui est un bon signe. Julien, est-ce que c'est le fruit d'un travail long de transformation des professionnels ?
Déjà, ce qui est réel, c'est que dans chaque sondage, quelle que soit l'agence, même une agence qui a de très bonnes notes, de très bons avis clients, c'est souvent l'endroit qui peine un peu. Et ça, la difficulté, c'est toujours de faire comprendre à un client qu'on verra peut-être qu'une fois tous les 5 ans ou qu'une fois tous les 10 ans dans notre agence, qu'il va falloir qu'il paye une somme effectivement assez rondelette pour payer les honoraires. Effectivement, ça progresse. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que la qualité de service s'améliore. Oui, mais je dirais surtout qu'on arrive de plus en plus à expliquer les services que l'on rend. Et ne serait-ce que pour démarrer, c'est de... Je pense un agent immobilier doit mettre sur sa facture d'honoraires les services qu'il a rendus, le temps qu'il a passé. Quand vous travaillez avec un expert comptable ou quand vous travaillez avec un avocat, il vous facture au temps passé, il vous facturera. Aujourd'hui, vous avez eu un entretien avec ma collaboratrice, ça a duré une demi-heure, etc., etc., etc. Nous, on est payé au résultat, mais il y a tout un travail qui ne se voit pas qui est fait et je pense qu'on a tout intérêt à le détailler et en parler.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
L'IFPIM est une association loi 1901 qui regroupe l'ensemble des acteurs français de l'immobilier commercial et de son financement. Elle ouvre une série de sessions, débats et réflexions avec un focus sur l'inflation. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Alors, quels risques, quelles opportunités représentent l'inflation dans l'immobilier ? Une interview d'Olivier Colonna d'Istria, président de l'IFPM. C'était avec vous, Fabienne.
Bonjour, nous sommes avec Olivier Colonna d'Istria, président du directoire de SOCFIM. Qu'est-ce que c'est SOCFIM ? Et pouvez-vous surtout nous parler de cette thématique que vous avez abordée sur l'inflation et l'immobilier dans le cadre de l'IFPIM ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, SOCFIM, c'est la banque des professionnels de l'immobilier du groupe BPCE. Donc, nous finançons les promoteurs et les investisseurs. BPCE étant le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et l'IFPIM, c'est l'Institut pour le financement des professionnels de l'immobilier, qui est un institut qui, depuis 7 ans, regroupe tous les grands acteurs de l'immobilier, les banques, les investisseurs, les foncières, les fonds, les promoteurs, les notaires, les avocats, et qui a pour mission... C'est un institut qui a pour mission, et qui n'est pas un institut catégoriel, de proposer des solutions concrètes aux grands enjeux du secteur immobilier. D'ailleurs, on le fait souvent en association avec les grandes fédérations, comme la Fédération des promoteurs, le CNCC ou la Fédération du bâtiment. Et c'est de valoriser et de faire rayonner la place immobilière, notamment auprès des pouvoirs publics, puisque vous savez que l'immobilier est une activité extrêmement réglementée. Et nous avons besoin de faire passer des propositions pour permettre le développement de cette industrie de l'immobilier, qui a un poids très important dans l'économie, insuffisamment reconnu, et aussi dans les évolutions sociétales.
Vous êtes intéressé au sujet de l'inflation et de l'immobilier. Quels sont les risques et les opportunités ?
Alors, au sein d'IFPI, nous avons effectivement un conseil scientifique qui réfléchit aux grandes évolutions économiques et financières. Et il nous avait semblé important, à un moment où tout le monde débat de « y a-t-il un retour de l'inflation ?», de se poser la question, un, des interactions entre l'inflation et l'immobilier, et deux, est-ce qu'il y a aujourd'hui inflation sur l'immobilier et qu'est-ce que ça représente comme risque. On a toujours dit que l'inflation était plutôt une bonne chose pour l'immobilier. On sait que rembourser de la dette avec de l'inflation, c'est plus facile. S'il n'y a pas d'inflation, comment ça se passe? Les travaux du conseil scientifique et les débats que nous avons eus ce matin lors de cette IFPIM Live, qui était le premier depuis maintenant 2 ans, qui a regroupé environ 70 personnes, on est arrivé à la conclusion qu'en fait, sur l'immobilier, première conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'inflation au sens macroéconomique, cycle salaire prix, qui est en train de s'enclencher en France. Ça veut dire qu'il n'y a pas, a priori, d'augmentation prévue du pouvoir d'achat face à l'augmentation des prix que l'on constate, ce qui a un impact sur, par exemple, la capacité des ménages à se loger. Ce que l'on a dit surtout, c'est que la hausse tendancielle des prix de l'immobilier qu'on constate, pour le coup, n'est pas un phénomène en tant que tel inflationniste, même si techniquement c'est de l'inflation, la hausse des prix, mais parce que c'est lié à un sujet d'offre et de demande. Pour le logement, par exemple, il y a insuffisamment d'offres par rapport à une demande qui est importante, et donc ça fait monter les prix, et que par ailleurs, les ingrédients des prix de revient de l'immobilier, que ce soit le prix du terrain, le prix de la construction, le malthusianisme administratif qui ne permet pas de développer des permis de construire, tout ceci concourt à une hausse des prix. Donc il y a effectivement un phénomène inflationniste au sens hausse des prix, mais ça n'est pas l'inflation au sens économique. La deuxième chose, c'est que cette inflation aujourd'hui ne se traduit pas et ne se traduira pas à court terme par une hausse des taux. On le voit bien, la BCE est tenue de modérer le profil de hausse des taux, et on sait que pour l'immobilier, le taux est quand même l'endettement est quand même l'élément déterminant de la tenue des marchés immobiliers. Donc il y a effectivement un phénomène de hausse tendancielle des prix, je parle du logement, on va parler après du bureau, mais il n'y a pas ce qu'on appelle le phénomène d'inflation au sens entraînement salaire-prix.
Très bien. Et est-ce que vous appelez quelque chose de vos voeux? Qu'est-ce que peut faire l'État pour quand même endiguer cette inflation qui peut compliquer les transactions dans le domaine immobilier?
Alors voilà, il y a effectivement une espèce de rupture dans le parcours d'accession des ménages à cause de cette hausse tendancielle des prix, même si les financements sont quand même disponibles, les banques prêtent aux ménages, mais on voit bien qu'il va y avoir un pincement entre la hausse des prix et une hausse des revenus qui ne va pas être au même niveau. Et donc, le seul phénomène, le seul moyen d'arriver à endiguer cette distorsion, c'est d'enfin essayer de provoquer un choc de l'offre, une production plus importante de logements pour que la loi naturelle de l'offre et de la demande s'exerce et qu'avec plus d'offres, la tendance naturelle à la hausse se ralentisse. Malheureusement, ça n'a pas été, c'était un objectif des pouvoirs publics, ça n'a pas pu se faire. Je crois vraiment qu'il faut que, sur ce sujet-là, l'ensemble des forces politiques administratives se mobilisent pour redonner à l'acte de construire sa vraie valeur. C'est une valeur de développement économique, c'est une valeur de développement du territoire, et c'est surtout le moyen de permettre aux ménages de se loger dans des conditions acceptables et à des prix acceptables à un moment où les ménages ont besoin de surfaces complémentaires pour pouvoir télétravailler ou de surfaces supplémentaires pour pouvoir vivre plus longtemps dans les appartements alors que jusqu'à présent ils n'y vivaient qu'une partie de la journée, le reste était au bureau. Donc il y a vraiment un enjeu extrêmement important à ce que ce choc de l'offre se produise enfin, parce que c'est la seule chose qui peut mettre fin ou en tout cas tempérer cette hausse tendancielle du prix de revient de l'immobilier, qui va encore être aggravé par les phénomènes de normes de verdissement qui sont à l'œuvre et qui sont évidemment nécessaires pour répondre aux objectifs climatiques.
Un mot très bref sur le certificat de projet. Il en a été question dans votre conférence.
Oui, tout à fait. On a défendu à l'IFPIM, on essaie de défendre des projets pratiques qui peuvent permettre de faire progresser les sujets. Or, on sait que, par exemple, sur les friches, qui sont les derniers terrains aujourd'hui qui vont pouvoir être utilisés pour construire, les friches sont ces terrains un peu délaissés où il y avait des usines, des vieux centres commerciaux, des activités qui n'existent plus aujourd'hui. Ces friches sont régies par des textes réglementaires d'une complexité extrême et qui, en général, ne permettent pas à des projets d'aboutir. Et donc, nous avons obtenu, dans le cadre de la loi climat résilience, une loi qui permet de faire définir par le préfet un certificat de projet qui va protéger les droits de ces friches pour que les porteurs de projets puissent, dans de bonnes conditions, développer ces futures opérations qui vont permettre justement le déploiement de l'offre. L'offre immobilière, elle ne pourra plus se déployer que sur ces sujets-là. Et par ailleurs, ça aura une vertu, c'est de répondre à la désartificialisation des sols, puisque par définition, ces sols sont déjà artificialisés.
Merci beaucoup Olivier Colonna d'Istria, président de l'IFPIM. Merci beaucoup.
Le Mac de l'Imo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
C'est bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne m'en demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
J'avais dit attends, tu vas voir, l'amour c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle.
Et je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
J'approche tout près de notre feu et je transpire d'amertume. Je vois danser ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perd fort. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment, ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal.
Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas ta faute. Mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien. Mais
je t'aime.
Et on vient d'écouter Je t'aime, magnifique titre de Encore Malade avec Camille Lelouch, bien sûr.
Le Mac de l'Imo, la start-up Imo, en partenariat avec Bien Ici, Jean-Michel Royot.
Et comme chaque semaine dans le Mac de Limo, avant de découvrir notre invité dans quelques instants, on rejoint Jean-Michel Royot et son interview. Chaque semaine, il nous propose de découvrir une start-up. C'est parti.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui ravi d'accueillir Guillaume Le Chapelet de Paper Nest. Bonjour Guillaume, comment allez-vous ?
Bonjour Michel, très bien et merci beaucoup pour l'invitation.
On est toujours au Rent où on voit beaucoup de belles start-up dont la vôtre et beaucoup d'innovations en faveur de l'immobilier et de tous ses acteurs. Aujourd'hui, on va parler de Paper Nest. Alors moi, on vous voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais au fond, quelle est votre promesse ?
Alors la promesse de Paper Nest, c'est une promesse de simplification d'un moment de vie qui est le moment de vie du déménagement. Aujourd'hui, lorsque vous déménagez, vous avez besoin de souscrire tout un tas de contrats et de résilier aussi les contrats de votre ancien logement. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller simplifier ce moment de vie là, on va centraliser la gestion de tous ces contrats, électricité, gaz, box internet, assurance habitation, courrier, et gratuitement pour le particulier.
D'accord, donc ça a l'air facile et efficace, mais vous savez, sur Radio Imo, on aime creuser un petit peu plus les sujets, donc comment ça marche, depuis quand ça existe, combien de clients avez-vous, où est-ce que vous intervenez, vous voyez, toutes les questions qu'on peut se poser pour en savoir plus. Allez, en une minute, Guillaume, c'est à vous.
Très bien. Alors, Paper Nest, c'est une start-up qui a aujourd'hui 6 ans, créée en 2015, qui a beaucoup grandi ces dernières années. On est aujourd'hui 900 collaborateurs.
Mais 900 collaborateurs.
Exactement. Ouais, 900 collaborateurs sur 3 sites. Donc, on est historiquement à Paris, 19e. On a, il y a 3 ans, donc 2018, ouvert des locaux à Barcelone, pour se lancer notamment sur le marché espagnol. Et on a ouvert en début 2021 des locaux à Reims, où on a agrandi une partie de notre service client. Donc, on a une centaine de positions sur Reims.
Parce que aujourd'hui, le développement européen fait partie de la stratégie de...
C'est un axe de croissance clair pour Paper Nest. On a ouvert le marché espagnol il y a 3 ans. L'année dernière, l'Italie, le Royaume-Uni en début d'année. Et on est en train d'ouvrir l'Allemagne actuellement. Et on a d'autres pays en tête pour 2022. Ouais.
Mais ce que je comprends, c'est que c'est plutôt du B2B2C, où les clients particuliers s'adressent directement. Non, c'est via des partenariats.
Alors, c'est il y a effectivement, on fait de l'acquisition via du marketing digital, donc ouais. En direct. Ouais. Mais de plus en plus, effectivement, on développe tout ce réseau de distribution via les partenaires dans l'immobilier, donc dans le logement privé, dans le logement social, et à la fois sur donc la France et nos différents nouveaux marchés.
J'ai compris aussi que vous aviez des partenariats avec des banques.
Avec les acteurs bancaires aussi, exactement. D'accord. Sur une problématique qui diffère un peu du déménagement, là on va apporter une solution aux clients de la BNP notamment, on a un partenariat national avec BNP, on va aider le client BNP à optimiser son budget et ses charges contraintes. Donc on va revoir les différents contrats qui tombent tous les mois et on va voir si on peut faire des économies aux clients de la BNP.
D'accord, donc là vous avez cité une belle banque, la BNP, mais vous avez sans doute beaucoup d'autres références. Qui vous fait confiance aujourd'hui? Et en particulier, Guillaume, sur le monde de l'immobilier.
Sur le monde de l'immobilier.
On est sur Radio Imo, on s'adresse aux passionnés des start-up du monde de l'immobilier. Alors, quels sont vos clients du monde de l'immobilier?
Alors, les partenaires immobiliers, ça a été dans un premier temps tous les réseaux immobiliers, aujourd'hui Orpi, Citia, Century 21.
Des agences immobilières.
Des agences immobilières ou administrateurs de biens. Sergic, tous ces réseaux-là nous font confiance et on a des accords nationaux avec eux. Et donc les agents immobiliers.
C'est des milliers de points de vente qui représentent votre maison, du coup.
Exactement. Alors, c'est sur de la transaction de la location et c'est aujourd'hui 8000 points de vente.
8000.
Qui proposent Paper Nest à leurs clients, locataires, acheteurs.
Fait combien de clients, ça, au final?
Ça fait, alors, depuis 6 ans, ça fait 900 000 clients accompagnés.
Ah ouais, donc vous avez le million en ligne de mire là. Il faudra fêter ça.
Il est pas loin. On se dépêche pour fêter ça avant la fin 2021. Et donc du coup ça a été l'immobilier, on va dire le logement privé. Et on a développé aussi de plus en plus des partenariats avec les bailleurs sociaux parce que le besoin d'accompagnement.
Alors quels bailleurs sociaux?
Alors je pense à des filiales d'Action Logement Immobilier comme Séquence, comme Podelia. On travaille aussi avec Domanis, avec Maine-et-Loire Habitat qui font partie des premiers bailleurs.
Des ESH et des offices
et des OPH, ouais.
D'accord, ok.
Exactement.
Ok, c'est très bien. Très bien, très bien.
C'est aujourd'hui une quarantaine de bailleurs qui
alors,
font...
Alors, ok. Alors, on est soit agent immobilier, soit bailleur social et on souhaite vous contacter. Comment on fait?
Alors très simple, moi je suis quelqu'un de très accessible, donc on peut me contacter sur LinkedIn.
Ça, je peux en témoigner. Voilà. Hein, je peux en témoigner.
Donc, mais Jean-Michel aussi, tu es très accessible. Donc non, sur LinkedIn, Guillaume Le Chapelet, je répondrai volontiers. Mon email c'est guillaume.lechapelet@pepperness.com. Et pour plus d'informations, il y a aussi le site pro.pepperness.com sur lequel vous avez des informations pour nos partenaires ou futurs partenaires.
On tâchera de remettre ça par écrit sur le post.
Avec grand plaisir.
LinkedIn qu'on fera ensemble pour fournir toute l'information à nos auditeurs. Merci Guillaume. Ben, écoutez, on souhaite plein de succès à Pepperness pour les années à venir. En tout cas, bravo pour votre belle trajectoire. Hein. On retiendra que le million de clients est en ligne de mire dans les prochaines semaines. Donc un grand bravo, plein de succès pour vos prochaines aventures. Et puis à très vite sur Radio Imo. Merci Guillaume.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup Jean-Michel.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Le Mac de l'Imo, ça continue dans quelques minutes, il sera 8h. Mais tout de suite, Fabienne, bah, c'est l'heure d'accueillir notre invité pour cette deuxième heure, Samuel Co. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de XP France. Alors, on va tout savoir dans quelques minutes sur cette nouvelle franchise, on peut dire ça comme ça ?
Alors, surtout pas, on n'est pas une franchise.
D'accord. Bon, ben.
Nous sommes un réseau intégré.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une société qui se développe très vite, un groupe qui s'est fortement internationalisé. Ce qui me plaît, Fabrice, c'est qu'on a maintenant des acteurs qui font de nouveaux modèles. Quand vous allez sur le site de EXP, vous voyez ce terme « l'immobilier autrement ». Qu'est-ce que ça veut dire ? J'espère que notre émission va permettre de clarifier un petit peu la chose.
Ouais. Samuel, on vous explique quand même les ressorts donc, de ce qui vous attend de 8h à 9h aujourd'hui. C'est vous découvrir déjà évidemment alors ce nouveau modèle hein, disruptif de XP, vos ambitions pour la France, qui sait que vous allez peut-être déranger, comment ça marche aux États-Unis puisque l'expérience vient de là-bas, et puis au-delà votre expérience, voilà, qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans cette aventure, votre parcours passé, peut-être vos projets autres, vos ambitions à vous aussi. On aura plein de surprises, on va vous découvrir à travers bien sûr nos questions mais également des témoignages d'invités exceptionnel. Est-ce que vous êtes prêt, Samuel, à jouer le jeu avec nous ?
Bah écoutez, avec grand plaisir. Je suis là maintenant, donc je ne vais pas partir en courant. Donc avec très grand plaisir.
Ok, bon voilà, c'est vrai qu'on vous a fait lever un petit peu tôt, puisqu'on fait cette émission en direct. Vous êtes matinal ? Comment ça se passe ? Puisque quand on travaille avec les États-Unis, normalement on peut dormir un petit peu plus. Ils ne sont pas encore arrivés, nos amis américains, avec 6 heures de décalage.
Alors oui, où on fait une double journée.
C'est moins bien.
Donc effectivement, je travaille tout d'abord en tant que directeur général pour XP France, donc pour mes conseillers en France, pour mon staff en France. Donc on a une journée française. Et effectivement, nous avons le plaisir d'avoir des Américains qui se lèvent à peu près selon les fuseaux horaires, puisqu'on est surtout les fuseaux. Donc entre ils sont assez matinaux par contre, hein. Donc certains commencent à 4-5 heures du matin, mais ça commence vers midi, 13 heures et jusqu'à un petit peu tard dans la nuit.
D'accord, donc c'est vrai que ça peut... Et du coup, vous n'avez pas de problème pour dormir, pour gérer de temps en temps ces doubles journées ?
Ben, j'ai pas de problème pour dormir, non.
Ah ben ça, c'est très bien.
Quand je me couche, je dors bien.
Et effectivement, on va faire un petit point d'étape, parce que je me suis laissé dire que c'est bientôt votre anniversaire. Ça fait quoi, un an en France, c'est ça ?
Le 14 décembre, ça sera un an.
Vous allez faire ça en grande pompe à l'américaine ?
Non, on va être discret.
Moi, je crois, il me semble, Fabrice, c'est ça le paradoxe de XP et de Samuel Co. La puissance d'un groupe américain, on va en parler dans un instant, hein, 69 000 agents dans le monde. Et il est tout poli, il est tout gentil. Je suis allée le chercher, il osait à peine rentrer dans le seuil du studio. Eh bien, je crois qu'il y a des surprises dans cette émission. On va un petit peu mieux le découvrir dans un instant.
Autre chose, c'est vous qui êtes à la programmation musicale, Samuel, c'est vous qui avez choisi certains titres. On va commencer avec un premier titre, je crois que c'est Jeff Buckley, Alléluia. Pourquoi ce choix ?
Alors ça, c'était dur. je vous le cache pas, c'était très dur. Je suis assez hétéroclite en musique, donc j'aurais pu choisir vraiment un certain nombre de titres. Donc effectivement, j'ai essayé de... Jeff Buckley, c'est une chanson que je trouve magnifique, quoi. Donc, je vais du reste pas parler en même temps qu'on l'écoute parce qu'elle est magnifique, cette chanson.
D'accord. Eh bien, on laisse Jeff Buckley sur les ondes de Radio Imo. Une petite coupure info et on se retrouve juste après 8h à 8h02 pour le portrait de Samuel Co, notre invité ce matin.
heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah.
Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion Système, promis et bien ici.